Game Radio. Bonjour et bienvenue sur Game Radio, avec aujourd'hui une toute nouvelle émission intitulée Ondes ludiques. Kalia et Kalam ne vous proposent de découvrir ou de redécouvrir en leur compagnie une sélection de musiques issues de jeux vidéo. Ils vous proposent non seulement de mieux comprendre leur origine, mais surtout de partager avec eux toute l'émotion et la musicalité des plus beaux morceaux de musique de jeux vidéo. Ondes ludiques, épisode 1, c'est parti.
Game Radio.
Bonsoir à tous, ici Kalam, bienvenue sur Game Radio. Aujourd'hui, on est ensemble pour une nouvelle émission. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Kalia. Bonsoir Kalia.
Bonsoir tout le monde. Alors comme vous l'entendez, l'ambiance est un petit peu plus calme, moins enjouée qu'à l'ordinaire. On va essayer d'être plus serein. Je vais essayer d'être plus sereine, avoir un débit normal. On va voir ce que ça donne.
Voilà, donc on est ensemble pour un nouveau concept d'émission. Alors, le but de cette émission, ça va être de vous proposer des morceaux, des musiques tirées bien sûr de jeux vidéo, qui vont être finalement appréciées déjà par nous et par vous aussi, on l'espère. Donc, le but, c'est de vous faire découvrir des morceaux.
Ou redécouvrir.
Ou redécouvrir, bien évidemment, des morceaux que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre ou auxquels vous ne faites pas attention, selon un thème. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, Kalia ?
Oui, pour aujourd'hui, on a choisi le thème paysage. Un thème assez classique dans des émissions de ce genre, donc des émissions d'ambiance, mais on a essayé de commencer plus facile. Et je pense que vous allez quand même découvrir des choses ou redécouvrir des morceaux que vous connaissez déjà.
Donc, on va commencer tout de suite avec un premier morceau que Kalia a choisi. Donc, je te laisse donner le titre du morceau, le compositeur. On laisse nos éditeurs écouter et puis on en reparle juste après.
Oui, alors comme première piste, j'ai sélectionné un morceau de Shadow of the Colossus, donc OST composé par Kōo Otani. Le morceau s'appelle The Farthest Land.
On écoute ça tout de suite.
Thank you. Voilà, c'était donc The Farthest Land de Shadow of the Colossus par Kōo Tani. The Farthest Land, donc littéralement le pays le plus lointain, et un nom particulièrement saillant. Ceux qui ont fait le jeu s'en rappelleront, donc Shadow of the Colossus est un jeu où l'on parcourt des étendues absolument immenses. C'est sans doute l'un des environnements les plus immenses et les plus détaillés qu'il m'ait donné de voir dans un jeu vidéo. Et en plus, qui est parfaitement vide, c'est-à-dire qu'on a justement tout loisir pour admirer la nature paisible, ses paysages dans toute leur splendeur, sans ennemis, sans créatures, sans rien. On est juste là, au milieu, sur notre cheval, et on parcourt ces paysages. Et je pense que pour tous les joueurs, ça a été une expérience inoubliable.
Alors, concernant le morceau que l'on vient de diffuser, c'est un très beau morceau, très, très joliment composé. C'est un morceau qui, en fait, c'est un morceau qui nous fait voyager, donc c'est pour ça qu'il a été très bien choisi par Kalia. C'est vraiment un morceau qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez nous, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de sonorités, je trouve, asiatiques.
Ben, justement, l'inspiration de la team ICO quand elle a réalisé ce jeu était les plaines mongoliennes, donc c'est pas étonnant. Effectivement, c'est une sonorité tout à fait extraordinaire pour un jeu vidéo.
Je ne connais pas le morceau et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment type musique, musique de type mongol. C'est exactement, exactement ce que j'ai ressenti.
C'est tout à fait dans l'esthétique du jeu. Mais d'ailleurs, tu sais que ce morceau, en fait, n'a pas été inclus dans le jeu en lui-même, puisque Fumito Ueda, donc le game designer, a pris le parti finalement de laisser ces grands voyages dans ces grandes étendues sauvages dans le silence le plus complet, c'est-à-dire qu'on galope et on n'entend que le vent. Et donc il y avait des morceaux composés à l'origine pour ces passages qui n'ont pas été inclus dans le jeu mais qui ont été inclus à l'OST, et c'est l'un de ces morceaux-là qu'on vient d'entendre.
Oui, ce morceau est vraiment, vraiment dépaysant. On a vraiment l'impression d'entendre le folklore mongol dans les différentes mélodies qui sont composés là.
Oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette résonance en fait dans les notes, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai joué au jeu aussi et que donc ça m'évoque le jeu, mais cette résonance dans les notes m'évoque vraiment le vide en fait de ces plaines. C'est vraiment des notes qui sont jetées dans le vide, et enfin personnellement quand j'entends ça, je vois vraiment les grandes plaines avec les herbes et quelques collines, ce qu'on a en fait dans Shadow of the Colossus. Alors c'est toujours comme ça quand on associe des musiques à un jeu. Les images deviennent inextricables. C'est pour ça aussi d'ailleurs que cette émission a peut-être l'intérêt de faire redécouvrir des musiques, donc de faire un peu des Madeleines de Proust, comme tu me disais, pour des joueurs qui connaissent les musiques, qui ont joué au jeu, ou d'évoquer justement des impressions vierges chez d'autres joueurs qui n'ont pas encore testé ce jeu-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais du coup, ça peut être intéressant de confronter des premières impressions vierges et des souvenirs de jeu.
Je pense qu'au final, tu m'aurais fait écouter le morceau sans me dire que ça venait de Shadow of the Colossus. Je suis pas sûr, là, sur le moment, de pouvoir faire le lien en fait entre la musique et les plaines vides, au contraire. Moi, ça m'évoquait plutôt, quand je parlais de folklore, mais plutôt d'un quotidien de vie ou de musique traditionnelle, qui, justement, peut-être sont à l'inverse du vide que représentent les plaines de Shadow of the Colossus, et donc plutôt au contraire une population... Alors oui, il y a le côté steppe.
C'est vrai qu'on peut voir un village nomade aussi, c'est vrai.
Exactement. J'ai plutôt eu cette impression-là, en fait.
C'est vrai que la musique est beaucoup plus légère que ce qu'on entend dans le jeu, et d'ailleurs que la majorité de l'OST. La musique est beaucoup plus enlevée. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas été inclue au final. Parce que c'est vrai qu'elle détonne un peu par rapport au reste de l'OST.
Et d'ailleurs, il n'y a rien qui nous rappelle vraiment le vent ou même le vide ou l'écho. C'est plutôt un instrument, donc l'instrument à cordes qui... Ouais, moi j'ai plutôt tendance
l'écho,
à
l'écho, penser... L'écho, moi je l'entends. Le vent, c'est vrai, comme c'est pas un instrument à vent, on n'entend pas le vent. Mais on entend quand même un écho. Je trouve que les notes résonnent dans un certain vide. Ça m'a évoqué justement ces grandes steppes vides. Mais après, c'est le principe, hein, c'est d'avoir des impressions différentes d'une musique, c'est ça qui est intéressant.
Très bien.
On passe à la suite.
On va passer à un autre morceau. Alors, c'est un morceau que j'ai sélectionné. Alors,
c'est deux morceaux, c'est toujours, en fait, non ?
Alors, effectivement, ce sont deux morceaux, l'un à la suite de l'autre, qui sont tirés du jeu Morrowind, et c'est composé par Jérémy Sable. Donc, on écoute ça tout de suite. Thank you. Et donc c'était deux morceaux tirés de la bande originale donc du jeu Morrowind, The Elder Scrolls 3. Le premier morceau c'est Nereva Rising et le deuxième c'était Peaceful Waters. Donc deux morceaux qui sont tout simplement magiques.
Je n'ai qu'un seul commentaire, que des pics. C'est du Jeremy Saul tout craché et du bon. Vraiment.
Effectivement. Alors, juste pour revenir rapidement sur Jeremy Saul, il compose énormément de bandes originales pour jeux vidéo. Vraiment beaucoup, encore maintenant. Il en sort quasiment plusieurs par an, qu'il compose lui-même. Alors, ça va du jeu d'action aux stratégies temps réel, etc. En fait, là, pour Morrowind, il y a plein d'autres morceaux sur l'OST qui valent vraiment le coup aussi. Alors, ces deux morceaux ont effectivement un côté très, très, très épique.
Le premier surtout.
En fait, c'est deux morceaux très différents, finalement. Deux morceaux différents, effectivement. Le premier, c'est le thème principal du jeu. Le deuxième, c'est en fait un thème qui nous accompagne lors de la découverte du monde. Donc, pour vous resituer un peu le contexte du jeu, ce sont en fait c'est une destinée. Voilà, on incarne un héros. On choisit sa race, peu importe. On choisit son genre, son sexe. Mais au final, c'est une vraie épopée, une vraie destinée. C'est la destinée du Nerevarine. Et en fait, on commence la quête du Nerevarine sans savoir vraiment que nous incombe cette destinée, et on va jusqu'au bout du jeu. Pour dire vrai, c'est un jeu. Ce jeu, il représente tout ce que peut être le côté épique d'un RPG occidental aujourd'hui, dans le sens où il y a trois quêtes principales. Enfin, il y a trois quêtes sur toute l'histoire, sur toute la quête principale en elle-même. Il y a seulement trois étapes. Vous avez trois missions qui sont assez courtes. Tout le reste du temps, vous évoluez dans un monde. Et c'est là où le deuxième morceau représente vraiment ça, c'est vous êtes seul, vous avancez, vous allez découvrir des choses, découvrir des paysages somptueux, spectaculaires. Donc c'est sorti en 2002, hein, donc ça date déjà de plusieurs années. Mais à l'époque, vous n'aviez rien qui pouvait valoir ce magnifique lever de soleil. D'ailleurs, je pense que le début du deuxième morceau, c'est un peu ça. On a l'impression qu'on se réveille le matin, on est au bord de l'eau et on voit le lever de soleil. C'est juste magnifique. Mmh. Et en même temps, ce deuxième morceau, il n'est pas si rassurant que ça. Il y a beaucoup de moments qui sont assez inquiétants.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire Peaceful Water, ce titre en fait est assez étrange. C'est un titre qui m'a un petit peu interrogé pendant le morceau, parce qu'effectivement on a beaucoup de passages avec des basses. Jeremy Saul aime beaucoup les basses, et des basses un peu menaçantes. Il aime beaucoup faire ça dans ses morceaux plus épiques. Et en fait on a l'impression que sous ces eaux paisibles est tapis quelque chose de très noir, très très sombre, qui ressort un peu dans l'envolée finale.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est au bord du dos tranquille, c'est très reposant, on a envie de s'installer là et de camper et de s'arrêter en gros pour la nuit. Et en même temps, il y a toujours des dangers, que ce soit pendant la nuit ou même sous l'eau, puisque le danger est vraiment partout.
Pour revenir rapidement sur Jeremy Saul, donc, tu m'aurais pas dit que c'était lui, je pense que j'aurais quand même reconnu, parce qu'il a un style vraiment très classique, donc style toujours assez épique, avec beaucoup de basses, il aime beaucoup les basses. Et je dois avouer que donc le monsieur m'a un peu déçu ces derniers temps, en fait, par exemple avec des morceaux que je trouvais un peu dénués d'âme dans Guild Wars ou dans Oblivion. Mais là franchement, je retrouve du grand Jeremy Saul. C'est des morceaux que je ne connaissais pas, j'avoue, je n'ai pas fait Morrowind. Et particulièrement le premier, donc Nereva Rising, c'est tous les pics que j'aurais aimé retrouver dans la bande-son d'Oblivion. D'ailleurs, on retrouve des petits côtés Oblivion, on retrouve quelques motifs qu'on retrouve dans le thème des deux jeux, mais j'avoue une claire préférence pour ceux que je viens de faire écouter.
Alors effectivement, on va retrouver des sonorités très très proches si on compare Morrowind et Oblivion, tout simplement parce qu'il y a un thème principal des Elder Scrolls qui sont en fait qui ont inspiré Jeremy Saul pour faire ces deux bandes son. Je vous invite aussi à écouter Oblivion si vous voulez comparer, parce qu'on a aussi des morceaux épiques, mais rien que le thème principal, d'Oblivion est beaucoup plus rapide.
Mais j'aime beaucoup l'envolée au début du thème principal d'Oblivion, mais après, je trouve qu'il s'essouffle et qu'il retombe, alors que celui-là, non, il continue.
Tout simplement parce qu'il ne pose pas sur la longueur l'accompagnement musical du jeu, en fait.
C'est vrai, tout à fait. Parce que dans Oblivion, alors on a que... aussi le thème de la carte qui démarre ensuite. Le thème de la carte que, justement, je n'aime pas trop, et du coup, ça cache un peu ce thème principal.
Alors que sur Morrowind, la musique participe complètement à l'aventure, et vous permet de profiter du monde et vous plonge vraiment dans votre personnage et vous aide à vivre une des meilleures histoires, un des meilleurs scénarios de RPG. C'est un des meilleurs scénarios de RPG parce qu'il est aussi très très simple. C'est-à-dire que c'est une destinée, c'est votre destinée, elle vous tombe dessus. Et ensuite, vous faites votre propre quête, votre propre histoire. Il est magique, ce jeu. Et je pense que la bande-son, elle en fait partie.
On sent intégralement. On sent ton amour dans la voix. Mais effectivement, peut-être qu'en fait, Jeremy Saul se révèle pleinement quand on lui laisse la bride sur le cou. Parce que c'est vrai que donc, les jeux que j'ai évoqués plus tôt, qui m'ont un peu déçu, Guild Wars et Oblivion, c'est des jeux où la bande-son est finalement assez discrète. Et je pense qu'il est beaucoup plus fort quand il s'agit de faire des thèmes vraiment épiques et vraiment présents, comme on a entendu dans ce Morrowind title song.
Il faut pas oublier non plus que dans Morrowind, il y a énormément d'exploration qui est beaucoup plus beaucoup plus difficile que dans les jeux qu'il a pu faire après. C'est-à-dire qu'on a un côté beaucoup plus action dans Oblivion, du fait du système de progression de gameplay, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais dans Morrowind, vous faites vraiment de l'exploration et vous avez l'impression de le faire. Et je pense que c'est pour ça que la BO colle vraiment, vraiment parfaitement avec le jeu. Mmh. On va passer au troisième morceau.
Oui, on change complètement d'univers. Mmh. On change complètement d'univers. Là, on part pour le Japon féodal. Je pense qu'il y en aura déjà beaucoup qui ont compris de quel jeu on va écouter. Puisque oui, j'ai choisi un morceau de Okami, un jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment. Et en fait, je pense que le choix s'imposait, puisque tout simplement, je passe la moitié de mon temps de jeu à m'arrêter pour trouver le meilleur angle de caméra pour apprécier le paysage, donc il était qualifié d'office. Et donc, le morceau qu'on va écouter aujourd'hui, le choix a été très difficile, c'est le thème complet des plaines de Hiroshima, donc Hiroshima 1 et 2 à coller. OST donc composé par Hiroshi Yamaguchi.
Ok, on écoute ça tout de suite. We'll be right back.
Voilà, donc c'était Les Plaines de Hiroshima par Hiroshi Yamaguchi. Il faut savoir que l'OST de Okami a été composé par quatre compositeurs, Masami Ueda, Hiroshi Yamaguchi, Rei Kondo et Akari Groves. Mais là, donc, ce morceau était composé par Hiroshi Yamaguchi. Et donc, Les Plaines de Hiroshima, un très long morceau, comme vous avez pu l'entendre, et un morceau qui enfle et qui s'accélère au fur et à mesure, notamment avec l'ajout de percussions. Vous avez donc entendu donc ces percussions qui viennent soutenir le morceau, lui donner son rythme vers le milieu et qui s'accélère par la suite. Et que dire, bon, c'est, évidemment c'est un morceau très différent de ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission, et c'est évident puisque c'est une OST très particulière. Je veux dire, elle a été maintes fois primée. Bon, une OST très particulière et très originale pour un jeu très particulier et très original.
Alors, il y a effectivement deux parties dans le morceau. Une première qui était plutôt calme, une deuxième qui est très, enfin pas accélérée puisque le morceau est rythmé dès le début, hein, mais on sent toute la dimension épique. On parlait d'épique tout à l'heure avec Morrowind, on l'a ici encore, mais d'une façon un peu différente. Alors moi, pour te dire comment j'ai ressenti le morceau, enfin en écoutant en tout cas la deuxième partie qui m'a vraiment beaucoup plu, j'avais l'impression que je pouvais être sur mon cheval en train de me balader dans les prairies, effectivement. Des royaumes du Japon à l'époque féodale. C'est vrai qu'on sent bien l'intonation et la musicalité japonaise.
Ouais. Est-ce que tu as joué à Okami ?
Oui, j'ai D'accord. joué à Okami.
Parce que, en tout cas, donc, tu sais qu'on n'est pas à cheval. On est...
Je sais, on est, en fait, je disais pattes, ça parce que, en me disant, effectivement, on pourrait très bien être à cheval, pour avoir un exemple concret, je me voyais plutôt à dos de loup blanc, effectivement.
Ouais, mais justement, je ne sais pas si on pourrait dire qu'on est à cheval, parce que, alors, je sais pas quel souvenir, toi, tu as du jeu, mais personnellement, là, mon plus grand plaisir, donc je suis en train d'y jouer, et mon plus grand plaisir, c'est vraiment de filer dans les plaines, parce que la particularité d'Okami, donc, c'est qu'on incarne un loup, donc une louve blanche, pour être précise. En fait, pour être très précise, la déesse Amaterasu, déesse du soleil, réincarnée en louve blanche, voilà. Et donc, c'est un personnage qui peut courir très vite et qui a une course très fluide. Et c'est très particulier. C'est-à-dire que si vous comparez, par exemple, avec un Zelda où on incarne un personnage humain, bipède, et c'est tout à fait différent. Le sentiment de fluidité en Okami est absolument incroyable. Et pour tout vous dire, je passe mon temps à traverser les plaines d'un bout à l'autre, donc en courant, en sautant. En plus, trait de génie, votre personnage laisse une traînée de végétation et de fleurs derrière elle. Et ça, on peut pas le décrire, mais en jeu, ça donne juste une impression de fluidité incroyable. Et donc cette course effrénée de loup est très bien soutenue, je pense, par cette musique.
En tout cas, je trouve la première partie de la musique un peu classique, finalement, dans la construction et dans l'accompagnement d'une scène de jeu vidéo. En fait, sur la première partie, j'ai pas été transcendé. Par contre, sur la deuxième partie, vraiment, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup apprécié et j'ai adoré. Mais pour en revenir peut-être à Okami et à l'incarnation du loup, dans mes souvenirs, en fait, l'impression que ça m'en a laissé, et c'est pour ça, et ça me retranscrit exactement ce que j'ai ressenti en jouant, là, cette musique-là, c'est que j'ai l'impression plus de chevaucher le loup plutôt que de vraiment l'incarner en tant que tel. J'ai l'impression, dans la construction scénaristique d'Okami, qu'on n'est pas, on nous donne pas l'impression d'incarner complètement le loup, mais d'incarner un être, peut-être qui va se servir du loup. Justement.
Oui, exactement. Un peu un observateur. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et je pense que c'est lié au fait que les réalisateurs d'Okami ont pris un parti très, très osé, très original. C'est de faire un personnage principal parfaitement mystérieux. Pas sans personnalité, parce que les personnages sans personnalité, on en a beaucoup. Par exemple, Link dans Zelda n'a absolument aucune personnalité, ou quasiment pas. Mais là, exactement. C'est très différent. Là, on a un personnage qui est parfaitement mystérieux. C'est-à-dire que jamais on ne sait. La façon, c'est une déesse, et donc jamais on a le moindre indice sur la façon dont elle appréhende cette aventure. Est-ce qu'elle pense la façon d'un loup, une façon plus humaine ou même une façon plus divine ? C'est-à-dire que jamais Amaterasu ne prononce le moindre mot. Pendant les séquences de dialogue, c'est toujours donc Isun, l'espèce de puce qu'elle a sur le dos et donc qui a été intégrée justement pour faire un lien et pour rendre le dialogue possible. Pour faire un lien avec le joueur, mais Amaterasu, pendant les dialogues, regarde ailleurs, bye, fait d'autres choses. Bref, elle a l'air complètement détachée de l'aventure. Et je comprends que ça a pu te donner cette impression, effectivement.
Je pense qu'au final, c'est volontaire et c'est plutôt bien réussi, de se dire, vous n'êtes pas le loup, vous utilisez le loup pour...
Je sais pas si utiliser le mot me choque un peu. Utiliser.
Ben, c'est vrai qu'on incarne. Parce que ça te fait penser à effectivement à un objet ou un outil. Sauf que c'est pas exactement ça, mais et finalement quand on regarde le scénario un petit peu quand même. C'est-à-dire que.
Pas de spoil, hein, attention.
Non. Non, mais la réincarnation dans le loup, ça reste quand même une enveloppe et l'entité propre.
Tout à fait, oui.
Et elle ne s'exprime pas peut-être pour ça, pour laisser le joueur s'immerger dans le personnage, mais pas dans le personnage du loup, dans le personnage de la déesse qui contrôle le loup.
Tout à fait, voilà. C'est le sentiment qu'on a, effectivement. Mais moi, j'ai bien aimé me dire, justement, que j'incarnais le personnage du loup en lui-même. Que je comprenais pas tout au personnage, mais pour une fois, ça a réussi à me faire incarner le personnage. Alors que d'habitude, justement, j'aime pas du tout les personnages sans personnalité qui sont censés nous permettre de nous incorporer au jeu parce que ça ne marche pas du tout. J'ai juste l'impression de jouer un personnage stupide. Alors que là justement, ce retrait, en fait, cette sobriété m'a vraiment permis de m'immerger dans le jeu.
En tout cas, moi, le morceau là me rappelle vraiment, vraiment ça. Un très bon choix de morceau, en tout cas.
Merci.
Très plaisant.
Le prochain morceau qui compose ma sélection cette semaine est donc un morceau tiré de la bande originale de Final Fantasy XII. Alors, c'est un classique du jeu vidéo, mais je vous ai choisi ça parce qu'il est vraiment particulier. C'est composé par Hitoshi Sakimoto, et on écoute ça tout de suite. Thank you. C'était donc le morceau Hermit Village, composé par Hitoshi Sakimoto, et c'est tiré de la bande originale de Final Fantasy XII.
Alors,
c'était absolument magique.
Voilà, tout à fait.
FF12, c'est le seul FF sur lequel je ne connais absolument rien du tout. Donc pour le coup, là, c'était des impressions, des premières impressions, et c'était juste simplement magique.
On parlait de voyage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce morceau? Parce qu'il représente toute l'immensité de ce que peut nous faire ressentir Final Fantasy XII, puisqu'on parcourt un monde, et finalement, même si c'est assez dirigiste comme jeu dans le scénario, dans la construction scénaristique, on va vraiment voyager et on va voir des paysages complètement différents. En plus, ce thème-là, il intervient à un moment où on est perdu dans une forêt.
Dans une forêt, d'accord. Ça m'évoquait la mer.
Alors attends. En fait, on est perdu dans une forêt maléfique qui est vraiment empreinte de magie. Et à un moment donné, on arrive au cœur de cette forêt. Et au cœur de cette forêt, il y a un village qui est construit dans les arbres. Et c'est le thème de ce village. Ce village, il est peuplé par, et vous connaissez tous le personnage,
des férins.
Par les grands personnages féminins avec les oreilles de lapin.
La seule race qui a besoin de porter des talons aiguilles pour son équilibre.
Voilà, exactement. Et en fait, ce personnage, plutôt que d'être mis en avant dans le jeu, ce qu'on pourrait croire par rapport d'ailleurs à son design, qui peut être assez provocateur et aguicheur, etc.
Moi j'aime beaucoup le design de Vera, bizarrement.
C'est en fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une grosse, grosse part de mystère sur ce personnage au début, parce qu'il fait partie de l'équipe.
Sur Fran, c'est ça ?
Sur Fran, exactement. Et on ne sait rien d'elle. Rien du tout, si ce n'est qu'elle accompagne Baltier dans son aventure. On ne connaît rien, et à un moment donné, on est perdu. On est dans la forêt, c'est très, très menaçant. Et tout d'un coup, on arrive dans ce village et c'est tout bonnement magique. Et d'ailleurs, ce morceau, il est aussi très aérien, très léger, et il colle parfaitement à la silhouette des personnages qui sont dans ce village, des habitants de ce village.
Tiens, j'avais pas pensé comme ça. En fait, pour tout te dire, ça m'évoquait vraiment, là, comme ça, la mer. Pour tout te dire, ça m'a fait penser à Chrono Cross, qui pourtant n'est pas le même compositeur, hein, mais ça m'a évoqué Chrono Cross un petit peu.
Et si je devais citer un autre morceau de Final Fantasy, ce serait Terra, de Final Fantasy IX.
Du quoi, duquel je parle ?
Oui, je vois aussi.
Voilà. Mais ça ne m'a pas du tout évoqué la forêt, à vrai dire. Et c'est vrai que c'est étrange, parce que les Vera, bon, comme je disais, je ne connaissais vraiment pas grand-chose à FF12. Et pour moi, les Vera, c'était vraiment les Amazones. J'aime beaucoup d'ailleurs leur design, parce que pour une fois, je trouve que c'est, on va dire, du fanservice intelligent. Voilà, un tout petit mot là-dessus. Je trouve que les Vera, pour une fois, mettent en scène des personnages féminins qui sont plutôt respectueux et d'une façon justement, voilà, un peu Amazon, des personnages, des chasseresses un peu.
Exactement. Voilà. On a une communion avec la nature et en même temps, elles sont complètement reclues, c'est-à-dire qu'elles sont au milieu de la forêt et elles sont complètement protégées par la forêt. Mais la forêt est menaçante et dangereuse en même temps.
Et là, justement, c'est un thème qui ne fait pas du tout, en fait, chasseresse et Amazon. Justement. Donc, effectivement, on découvre le côté plus doux de ces personnages.
Alors, c'est doux sans l'être vraiment. C'est-à-dire que ce thème-là, c'est moins le thème des Vera que le thème vraiment du village. C'est-à-dire que on est dans une espèce de cocon et on pénètre ce cocon et cet endroit magique parce que, en fait,
cocon est un très bon mot, je pense, effectivement.
Voilà, la magie, elle n'est pas forcément présente partout dans Final Fantasy XII et il y a une espèce de concentration magique très importante sur cette forêt et on rentre comme ça dans une espèce de bulle et c'est pour ça que je disais aussi c'est très aérien parce que on est dans un village qui est construit dans les arbres, donc on est en hauteur. Et voilà, on est un peu dans un havre de paix complètement protégé et complètement reclus du monde. Et en même temps, voilà, ça va être... Alors, ça n'a pas vraiment de rapport avec le scénario, parce que dans le scénario, Fran, qui est donc le Vera qui... Enfin, la Vera qui...
Attention, pas spoiler aussi. Hein.
Non, elle n'est... voilà, elle a quitté ce village, et j'irai pas plus loin dans la description du scénario.
Parce que je vais jouer à celui-là.
Ouais, et non, c'est un thème qui est propre à Final Fantasy XII parce qu'on a dans le fond sonore, on a beaucoup de violons et de violoncelles qui nous rappellent vraiment le thème principale de Final Fantasy XII. Et en même temps, sur la fin du morceau, on a des percussions qui sont très particulières et qui ont été utilisées par Nobuo Uematsu sur la bande originale de Final Fantasy Crystal Chronicles, qui a pour thème aussi, la plupart de la bande originale a pour thème le voyage, et l'aventure, et le temps qui passe. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce morceau, parce qu'au final, on n'en profite peut-être pas assez dans le jeu, et en même temps, voilà, il favorise effectivement l'ambiance de l'endroit et de l'époque.
Mais excuse-moi, j'étais en train d'écouter un petit bout, il n'y a pas vraiment de violon dans ce morceau, il y a des cordes. Il y a de la flûte.
Si, à un moment donné, dans le fond, en fait, tu l'entends pas forcément correctement.
À la première écoute. Effectivement, par contre, ces percussions, je les ai entendues et justement, elles m'ont beaucoup plu. C'était ma partie préférée du morceau. C'est ces percussions qui l'agrémentaient extrêmement bien, vers le milieu et vers la fin.
Oui, tout à fait. Qui sont discrètes, mais qui sont quand même présentes et vraiment prenantes.
On va passer au dernier.
On va passer au dernier morceau déjà, effectivement. Donc c'est ton dernier choix, Kalia.
Oui, absolument, que j'ai insisté pour mettre en dernier. Comment le présenter? Bah, rapidement, tout simplement, c'est le morceau qui accompagnait le premier moment qui m'a fait pleurer sur un jeu vidéo. Un morceau très très intense pour moi. C'est pour ça que je voulais absolument faire passer en dernier. Et c'est un morceau d'un jeu parfaitement obscur, parce que je ne pouvais pas faire une émission sans vous montrer un truc obscur, évidemment. Donc c'est un morceau tiré de Terranigma, un vieux jeu, un vieux action RPG sur la SNES, un des jeux préférés. Et donc ce morceau est le thème de fin. Et donc morceau qui s'appelle Return to Mother Earth, Retour à la Terre-Mère, qui a été composé par Masanori Shikichi et Miyoko Kobayashi.
On écoute ça tout de suite. Thank you.
Voilà, c'était donc Return to Mother Earth, donc morceau de Terranigma, le thème de fin. Écoute, toujours très intense pour moi. Alors j'aimerais d'abord demander à Calam ses premières impressions, puisque je crois que tu l'as encore jamais entendu ce morceau avant.
Alors non, j'ai jamais entendu ce morceau. Finalement, il convient parfaitement à une musique de fin de jeu, de fin de scénario, parce que j'ai l'impression que ça retrace un peu un grand moment, et puis finalement ça finit très délicatement et très doucement, comme je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai beaucoup aimé la transition entre le moment un peu on n'arrête pas de dire le mot épique, mais c'est un peu ça, le moment un peu fort, un peu intense du morceau, et la fin. J'ai bien aimé cette transition.
C'est celle-là que tu as préférée ? Parce qu'effectivement, ce morceau est en trois parties. Tu as le début qui est assez calme, puis effectivement, cette espèce de pointe de musique, ce très grand moment, et effectivement, la transition vers la fin. Et moi, ce que je préfère dedans, c'est vraiment l'arrivée de cette pointe de musique, et d'un coup, voilà, elle est là, elle monte, et la musique explose. Et c'est vraiment un moment où je monte toujours le son. C'est tellement extraordinaire.
Ouais, moi, je l'ai vécu peut-être un peu différemment, parce que je ne connaissais pas le morceau. Et le temps que je rentre dans le morceau et que finalement la mélodie, la composition sonore m'entraîne, effectivement, au moment intense, j'ai l'impression de vraiment être dedans et finalement de vraiment apprécier cette transition vers la fin. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la transition de fin, effectivement.
Est-ce que tu aimes bien les sonorités SNES ? Parce que là, on a des bonnes grosses sonorités SNES, c'était pas du tout le même registre que ce qu'on a écouté avant.
Ah bah là non, on a de la musique 16 bits, c'est complètement différent. C'est différent dans le sens où, quand on ne connaît pas le jeu, la musique 16 bits, alors je connais pas le jeu certes, mais je connais quand même tout l'univers de la console, que ce soit Super NES, Mega Drive, Genesis, etc. Donc du coup, mais moi j'aime bien ces morceaux 16 bits. Mais peut-être la particularité des morceaux 16 bits comme ça, c'est que
leur plus grande valeur, c'est la valeur nostalgie, c'est ça que tu veux dire.
Peut-être qu'il y a, ça joue énormément.
Oui.
Effectivement. Et après, on est dans la composition de la mélodie. Mais comme de toute façon, les moyens, au moment de la création et de la composition, les moyens sont limités. De fait de la limitation technique. Je pense que comme on n'a pas tous les choix, et c'est ça aussi la prouesse des compositeurs de l'époque.
C'est de réussir à faire des choses avec des compositions différentes. Et
encore aujourd'hui, on a beaucoup de groupes aujourd'hui et de personnes qui composent encore en musique 8 bits et 16 bits, qui font très souvent plus de la musique électro-techno et moins de la musique comme ça d'ambiance ou de la musique qui accompagne les œuvres, qu'elles soient musicales ou cinématographiques.
Vidéoludique,
voilà. C'est vrai que c'est toute la puissance de cette composition, elle est là, c'est qu'elle arrive à un moment donné, parce que là la bascule a peut-être été un peu forte, hein, entre effectivement tous les morceaux qu'on a entendus avant, qui sont composés très souvent de façon un peu orchestrale, et là repasser une musique 16 bits.
Peut-être tu veux dire attention, c'est du 16 bits.
Non mais et au final. Le morceau, et c'est comme ça qu'on voit que, comme je disais, le compositeur est très très fort, c'est que ça arrive quand même à nous embarquer et à nous faire vivre un moment sympa. Évidemment, à ce moment-là, quand on le fait écouter, on sait que c'est de la musique de jeu vidéo. Tu vois, c'est ça aussi.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique de jeu vidéo et la musique cinématographique, enfin, voilà, elle peut se rejoindre dans beaucoup d'aspects. Et d'ailleurs, le jeu vidéo a beaucoup emprunté au cinéma concernant les OST, enfin les bandes originales. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et c'est là qu'on sent toute l'œuvre, la vraie œuvre originale aussi.
Exactement, justement, parce que ça, c'est une musique effectivement qu'on ne pourrait pas prendre pour une musique de cinéma. J'ai envie de dire, même si elle était orchestrale, parce que c'est juste des sonorités différentes. C'est très éthéré, très long, et on sent que ça retrace une aventure longue, une longue épopée en compagnie d'un personnage. Alors je vais quand même donc expliquer un petit peu le contexte de ce morceau. Donc si par hasard cette musique vous a fait tomber amoureux du jeu et que vous avez l'intention d'y jouer, n'écoutez pas ce que je vais dire, parce que c'est du spoil, et à mon avis il vaut vraiment mieux découvrir ce moment avec des yeux vierges. Donc c'est les crédits de fin, et on vole au-dessus de la Terre, donc notre Terre à nous, hein, le jeu se passe sur notre Terre à nous, on vole au-dessus de la Terre, on voit la Terre des yeux d'un oiseau. Enfin, on voit l'oiseau qui vole devant nous et on découvre la Terre comme il la voit. C'est seulement ça pendant toute cette musique. Et en fait, on voit la Terre qui grandit et vieillit, c'est-à-dire qu'on voit les inventions des hommes. Par exemple, ce moment très intense, là, dont on a parlé plus tôt, c'est un moment où l'oiseau se met à longer un train. Voilà, et donc on voit la Terre vieillir, et ça rejoint en fait le grand thème du jeu, puisque Terranigma, en fait, c'est un jeu où on accompagne la genèse de la Terre, de la genèse des continents, à celle de la flore, des oiseaux, des animaux, puis des hommes, et on accompagne les hommes dans toute la révolution. Et donc je trouvais que ces crédits de fin retraçaient parfaitement cette idée en regardant la Terre qui grandissait, sachant qu'en plus, et ça je n'en parlerai pas, parce que ce serait du gros spoil, ces crédits de fin représentent un moment extrêmement fort pour le personnage qu'on vient de quitter, donc puisqu'on a fini le jeu. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des joueurs qui sont vraiment immergés dans ce jeu auront passé ce générique en larmes, comme je l'ai fait.
D'accord, donc beaucoup de symbolique hein, dans le générique et dans le jeu tout court, hein, si j'ai compris.
Oui, même. C'est un jeu extrêmement symbolique, très intelligent, vraiment des thèmes philosophiques très profonds. C'est, j'ai envie de dire, c'est du jeu intello. Et quoique, en fait, même pas, parce qu'il y a des jeux intello, par exemple Baroque, dont je vous parle encore et je vous parlerai d'autres fois, qui sont vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment, alors, on est du jeu intelligent. Alors que Terranigma, justement, ça ne se prend pas au sérieux, c'est un petit jeu sans trop de prétention. D'ailleurs, la boîte a coulé juste après. Quintet a coulé juste après. C'était son chant du cygne. Hein. C'était aussi un chant d'adieu à la SNES. C'est l'un des derniers jeux à être sorti dessus. Et donc, c'était un jeu qui, mine de rien, est extrêmement profond.
Très bien, Kalia. Donc, je te remercie pour ce choix de morceau qui est pour le moins original. Parce que le but de l'émission, c'est aussi de vous faire découvrir des choses originales. Moi, ça m'a permis d'en découvrir également. Donc je suis très heureux d'avoir fait cette émission, cette première émission. Ce qu'on aimerait vous dire, c'est que, bien sûr, il va y avoir d'autres émissions.
D'autres ondes ludiques.
Et à chaque fois, on choisira un thème différent. Donc, le thème pour la prochaine fois, ça va être le jazz. Alors, pourquoi le
original
jazz?
Original, pour un
voilà,
jeu.
C'est, ah, voilà, c'est original.
J'avoue que j'étais dubitative au départ. C'est quand même qui a choisi. J'avoue que ça m'a un peu laissé sur le cul.
Tout à fait. On a envie de faire quelque chose qui change un peu, qui casse les codes. On sait que dans le jeu vidéo, il y a des morceaux de jazz. Il y a de très grands morceaux aussi. Il y a toutes les sortes de musique dans les jeux.
Exactement.
Donc, on va essayer de vous faire découvrir ça. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires ou par mail directement, vous avez aussi nos adresses mail sur le site, vous pourrez nous proposer un morceau qu'on diffusera dans le prochain Onde Ludique.
Et peut-être même plutôt par mail pour pas déflorer la surprise. C'est-à-dire, si vous pensez vraiment avoir trouvé un morceau qui irait parfaitement dans le thème, je propose simplement que vous envoyiez un mail à Calan ou à moi et on en choisira un ou deux qui iront donc à la fin de l'émission.
Voilà. Donc c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, pensez à venir sur le site hein, gameradio.fr et on vous dit à très bientôt.
Ouais, j'espère que vous avez apprécié donc ce petit voyage parmi les ondes vidéoludiques avec nous. Et moi aussi, je vous dis à bientôt et bon jeu.
Ciao.
Game Radio.